il est 11h, passé d'une minute sur Radio Campus Tour. Vous écoutez la Méridienne, c'est Mélissa et je vous annonce, auditeurs, auditrices, une nouvelle émission en partenariat avec l'Inserm Grand Ouest. Alors j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Catherine Belzung, bonjour.
Bonjour Mélissa.
Alors vous êtes docteur en neurosciences, directeur de l'unité Inserm iBrain qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir plusieurs fois dans cette émission et vous êtes aussi coordinatrice de la chaire UNESCO en maltraitance infantile. Et c'est à ce sujet que vous venez aujourd'hui précisément. Alors cette chaire UNESCO maltraitance infantile, je crois qu'elle a été créée en 2022. Peut-être voulez-vous rappeler votre rôle dans la création de cette chaire ?
Oui, en fait, cette chaire, effectivement, elle a maintenant deux ans et demi parce qu'elle a été créée en juillet 2022. C'est un long processus, ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça, comme d'une baguette magique. En fait, le début de l'idée de cette chaire se situe en fait pendant le premier confinement en 2020. Et à ce moment-là, en fait, on entendait dans les médias des cas de maltraitance infantile. Les gens étaient confinés et du coup, ça augmentait les conflits conjugaux. Ça augmentait aussi les maltraitances infantiles en raison, en fait, de la situation de confinement. Les gens ne pouvaient pas sortir et donc les conflits étaient exacerbés, ainsi que la violence dans certaines situations. Et du coup, je me demandais un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire, moi, pour ça. Enfin, sachant que j'étais à l'époque, enfin, je suis d'ailleurs toujours chercheur, enseignant-chercheur en neurosciences. Et du coup, je fais des recherches, mais on n'est pas tellement actif dans le domaine des politiques publiques ou bien de la proximité à des personnes en souffrance. Mais je me suis souvenu qu'il existait ce dispositif des chaires UNESCO. L'UNESCO, tout le monde sait, une organisation internationale, une agence de l'ONU. Et à l'université de Tours, à l'époque, il y avait déjà une chaire UNESCO sur les fleuves, donc rien à voir avec la maltraitance. Mais de ce fait, je savais qu'il existait des chaires UNESCO qui sont donc des dispositifs qui sont prévus par cette agence de l'ONU, l'UNESCO, pour réunir un petit peu des chercheurs de différents points de la planète. Parce que, comment dirais-je, la particularité de l'UNESCO, c'est que c'est quelque chose qui est véritablement international. Je dis véritablement international parce que nous, souvent, dans le monde de la recherche, quand on parle d'international, en réalité, on sous-entend plutôt les pays du Nord, Amérique du Nord, Europe, Japon, voilà, Australie, et on oublie totalement les pays du Grand Sud. Alors qu'à l'UNESCO, le terme international veut véritablement dire tous les acteurs du monde. Et du coup, cette forme-là d'internationalité m'intéressait par rapport à la question de la maltraitance infantile. Donc, d'un côté, j'entends dans les médias ces histoires de maltraitance, dans les foyers, etc. Par ailleurs, je sais qu'il existe ces chaires de l'UNESCO. Du coup, ben, comme j'étais confinée chez moi, j'ai été sur le site de l'UNESCO. Donc, évidemment, si vous allez sur le site de l'UNESCO comme personne lambda, c'est un petit peu difficile de parcourir. C'est comme une espèce de labyrinthe. Enfin, pour arriver au bon endroit de ce qu'on cherche, ce n'était pas évident. Mais j'ai fini par trouver le nom d'une personne avec son mail. Et du coup, je l'ai contactée. J'étais confinée chez moi et elle était confinée aussi. Voilà le début de l'histoire.
Ça veut dire que dans la recherche, l'empathie, c'est aussi un bon moteur ?
Oui, je pense que l'empathie, c'est un bon moteur. Il faut être concerné par les problématiques qui fait l'objet de nos recherches. Je pense que si on ne se sent pas concerné, on n'aura pas la même motivation, la même énergie, la même envie d'agir. Donc effectivement, l'empathie a été aussi un des moteurs de la décision de créer cette chaire.
Alors peut-être que ça peut surprendre quelques auditeurs, cette idée que l'empathie est un moteur, parce que quand on est, j'imagine, dans les métiers du soin ou en tout cas les carrières sociales aussi, on prévient souvent les étudiants, enfin les personnes en formation, attention, trop d'empathie tue l'empathie. Et du coup, attention à ne pas vous épuiser, à souffrir, disons, par procuration. Donc ça, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors je pense que ça, c'est une question assez délicate. Je pense qu'il faut une espèce de... Il faut deux capacités en réalité. C'est-à-dire, il faut... En fait, ce qu'il faudrait, ce qui serait mieux, c'est que l'empathie, c'est la compassion. C'est-à-dire, assez souvent, ce qu'on dit, c'est que l'empathie, ça peut être très positif parce qu'on se sent concerné par les autres, mais on peut se sentir tellement concerné qu'on finit par être totalement stressé, puisqu'on on porte toutes les souffrances du monde et du coup, on n'arrive pas à agir. Or, quand on voit de la souffrance autour de nous, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas seulement être concerné par la souffrance, mais c'est agir pour supprimer cette souffrance. Et quand on est trop stressé par la souffrance, souvent, on peut être bloqué et ne plus agir. Moi, j'ai un petit souvenir personnel de mon enfance. En fait, ma maman était quelqu'un de très empathique. Quand elle voyait que j'avais mal, en fait, elle se mettait à pleurer. Ben, en fait, ça, c'est sympa, mais ça ne m'aidait pas franchement. Donc, ce qu'il faut, c'est à la fois cette forme d'empathie qui fait qu'on est concerné par les autres, mais aussi la capacité à inhiber ce trop-plein d'empathie qui fait qu'on est stressé par l'empathie. Donc, et souvent, on appelle ça la compassion, c'est-à-dire la capacité à être concerné par les autres et en même temps à agir pour les autres. Il faut un petit peu les deux. Et pour agir pour les autres d'une manière efficace, il faut inhiber non pas l'empathie, mais l'excès d'empathie qui fait qu'on est bloqué dans son action.
D'ailleurs, je crois qu'il existe des traitements dits à vocation compassionnelle ou quelque chose comme ça.
Il existe des thérapies qui marchent pour certaines pathologies, par exemple le traumatisme, justement. Justement, ce sont des thérapies qui marchent dans le cas de la maltraitance infantile, qu'on appelle des thérapies de compassion. Ça marche aussi dans mes travaux de recherche, je vais d'ailleurs me lancer aussi dans cette direction, dans tester des thérapies de compassion auprès de personnes fortement traumatisées. C'est des thérapies qui consistent en trois étapes. En fait, il y a une première étape où la personne apprend à avoir de la compassion envers elle-même. Parce que assez souvent, des personnes qui souffrent, non seulement elles souffrent, mais parfois elles ne s'autorisent pas à, comment dirais-je, elles n'ont pas de compassion non plus envers elles-mêmes. Donc il y a une première étape où les personnes développent une compassion pour elles-mêmes. Et ça, déjà, en soi, ça peut aider à faire un chemin de guérison. Et ensuite, il y a une deuxième étape où la personne apprend à éprouver de la compassion envers autrui. Ça lui permet de sortir un peu de son propre horizon pour se projeter vers ses personnes proches. Et puis, il y a une troisième étape où la personne va devoir éprouver de la compassion pour des personnes neutres, des inconnus. Et il peut y avoir une quatrième étape où la personne doit éprouver de la compassion envers des personnes qui lui ont fait du mal. Par exemple, dans le cas de trauma qui est lié à des causes interpersonnelles, la personne qui lui a fait du mal, ou bien dans le cas de maltraitance infantile, ça peut être... Alors, il faut faire attention ici, compassion, ça ne veut pas forcément dire pardon. Hein, ça veut dire essayer de prendre la perspective de l'autre, essayer de, comment dirais-je, peut-être de trouver comme des excuses à l'autre, ou des choses comme ça. C'est les circonstances qui ont fait que... Enfin, des choses comme ça. Ça a été montré que ça peut fonctionner dans certaines formes de stress traumatique, post-traumatique.
Voilà, merci pour ces précisions. Alors, j'en reviens tout de même à cette chaire UNESCO. Donc, vous avez expliqué, la base de ce projet. Alors, pourquoi une chaire UNESCO sur la maltraitance infantile, justement, à Tours ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait déjà un terreau fertile d'autres équipes de recherche, de soignants, d'équipes, en tout cas, qui pouvaient aussi se greffer sur ce projet ?
Oui, effectivement, parce que là, dans la narration que j'ai faite, j'ai juste raconté que, effectivement, j'avais été touchée par ce problème sociétal qu'on entendait dans les médias, et puis que par ailleurs, j'ai mis ça ensemble avec le fait que je connaissais le dispositif des chaires UNESCO. Mais il y a aussi d'autres aspects qui font que cette chaire UNESCO a pu être développée. Tout d'abord, déjà à l'époque, je dirigeais l'unité de recherche qui s'appelle iBrain, ça veut dire Imaging Brain and Neuropsychiatry. En français, ça donne imagerie, cerveau et neuropsychiatrie. C'est donc une unité de recherche de l'INSERM qui s'intéresse précisément aux pathologies psychiatriques. Or, on sait que la maltraitance infantile multiplie par 4 le risque d'avoir une pathologie psychiatrique, c'est-à-dire c'est l'une des principales causes des pathologies psychiatriques. Le fait que la personne a été maltraitée quand elle était enfant fait que cette personne, quand elle arrive à l'âge adulte, a quasiment 4 fois plus de chances d'avoir une dépression. Elle a également un risque augmenté, je pense, par 3, d'avoir un stress post-traumatique après un trauma. Elle a un risque multiplié par 6 de développer des addictions. Enfin, donc, en gros, on peut dire que la maltraitance infantile est vraiment un terrain fertile pour développer des pathologies psychiatriques, en tout cas certaines pathologies psychiatriques, celles qui ont quelque chose à voir avec le stress. Donc ça, c'était évidemment un autre aspect qui me rendait sensible à cette problématique et qui est un aspect typiquement tourangeau. Ensuite, à Tours, j'avais également des collègues dans d'autres laboratoires que le laboratoire iBrain qui pouvaient être intéressés par cette question. Il y avait un collègue dans un laboratoire de psychologie. Ben, évidemment, des psychologues sont forcément intéressés par la question de la maltraitance infantile. Notamment, ce collègue-là, il était un expert, en plus d'être psychologue, il est expert judiciaire, ce qui fait qu'il avait été souvent saisi de questions de maltraitance et qu'il était amené à avoir un rôle d'expert dans des tribunaux, dans des cas de maltraitance. Il y avait aussi à Tours des collègues juristes, parce qu'évidemment, la maltraitance, ça concerne aussi le droit, parce que si on veut agir contre la maltraitance, il y a tout un arsenal juridique dont on peut se saisir pour lutter contre la maltraitance. Donc déjà, à Tours, il y avait effectivement un petit terreau qui fait que cette idée d'avoir des travaux universitaires dans le domaine de la maltraitance pouvait prendre, si je puis dire. Et par ailleurs, j'avais moi-même, à l'époque, des collaborations avec un réseau où on s'intéressait à une forme précise de maltraitance qui est la négligence. Je ne sais pas, dans vos auditeurs, vous m'avez dit que vos auditeurs sont plutôt des jeunes, donc ils n'ont peut-être pas le souvenir de ce qui s'est passé en 1989 quand le régime Ceaușescu a chuté en Roumanie. À ce moment-là, ont été découverts en Roumanie des institutions maltraitantes où avaient été placés des enfants qu'on a découverts à la chute de ce régime. On a découvert des enfants dans des lits à barreaux qui recevaient très peu de soins, en tout cas pas d'affection. On les nourrissait. On les lavait de temps en temps, mais ils n'avaient pas d'interaction avec des personnes en charge de s'en occuper. Et ils n'avaient pas de lien affectif. Et ces enfants étaient, comment dirais-je, développent par la suite des très graves problèmes, à la fois en termes de développement cognitif, de développement affectif, de pathologie psychiatrique. Et donc, à l'époque, en 2020, j'étais dans un projet de recherche où on travaillait avec ses collègues roumains pour essayer de trouver des thérapies, des interventions qu'on pourrait mettre en place chez ces enfants qui maintenant sont des adultes, afin d'essayer de diminuer l'impact de cette négligence pendant leur enfance. Donc, j'avais déjà, de par ces travaux de recherche, un réseau qui impliquait des chercheurs en Roumanie et au Canada pour essayer de trouver des solutions pour cette problématique de la maltraitance en Roumanie. Donc, parce qu'évidemment, pour développer une chaire UNESCO, il fallait un réseau international. Donc, effectivement, à Tours, il y avait un terrain fertile pour dénouer la pelote, si je puis dire.
Et d'ailleurs, peut-être que nos auditeurs connaissent Boris Cyrulnik. Il me semble qu'il a travaillé aussi sur ses enfants en Roumanie.
Alors, je ne sais pas si Boris Cyrulnik a travaillé sur les enfants en Roumanie, mais c'est effectivement un auteur qui s'intéresse beaucoup à la question de la résilience et de la vulnérabilité, parce qu'on sait aussi effectivement que certains enfants développent des séquelles plus que d'autres. Et du coup, effectivement, cette question de la maltraitance est aussi liée à la question de la vulnérabilité. Et de ce fait, effectivement, on peut dire qu'il y a un lien avec les travaux de Boris Cyrulnik.
Merci. Alors, je reviens aussi pour rebondir sur ce que vous expliquez, Catherine Belzung, que voilà, il y a certains enfants qui vont développer plus tard, suite à des maltraitances ou à des épisodes difficiles, des troubles psychiatriques. Donc, tout à l'heure, vous mentionniez justement le confinement pendant la Covid. Donc, il y a eu une multiplication des actes de violence en fait, envers certains enfants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un désastre à prévoir sur la santé mentale des enfants ? Est-ce que ce n'est pas déjà à l'œuvre d'ailleurs suite à cet événement-là ?
Ben, il y a en fait des études qui ont été menées, effectivement, qui montrent... alors, globalement, si on regarde un petit peu l'évolution de la maltraitance, alors, avant d'aller plus loin, il faudrait un petit peu définir aussi la maltraitance, en tout cas, dire qu'on distingue, il y a une typologie de la maltraitance, enfin, il y a aussi une définition, mais surtout une typologie, qui consiste à dire qu'il existe en gros 4 formes principales de maltraitance infantile. La première maltraitance qu'on peut effectivement mentionner, c'est la négligence. C'est celle dont je viens de parler avec les enfants qui étaient institutionnalisés en Roumanie, c'est-à-dire l'absence de soins, surtout d'affection, d'éducation à des enfants. Donc là, c'est plus un manque. Et puis après, il y a 3 autres formes qui sont les abus sexuels. Ça, tout le monde a présent à l'esprit. C'était aussi une thématique qui était... très présente dans les médias, déjà aussi en 2020 et un peu plus tard. Et ça c'est facile de comprendre de quoi il s'agit, enfin d'agressions sexuelles en particulier, sur des enfants, donc sur des mineurs. Et ensuite, il y a la maltraitance, la violence physique. Ça, on comprend très bien de quoi il s'agit. C'est des enfants qui sont battus, qui sont privés de nourriture, qui sont... obligés de mener des travaux, enfin, voilà. Et puis, finalement, la 4e forme, c'est la maltraitance psychologique, qui, elle, est plus de nature verbale, qui consiste, en fait, à humilier l'enfant, à lui dire « bah, t'es nul, tu n'arriveras jamais à rien », ça beau être uniquement verbal, mais un enfant peut très bien intérioriser ça, et ça va contribuer à alimenter sa représentation de lui-même jusqu'à l'âge adulte. Donc, il y a ces différentes formes de maltraitance. Alors, vous m'avez demandé comment ça évoluait. Alors, il y a une étude récente qui a été publiée qui a étudié l'évolution de la maltraitance depuis les années 90 jusqu'aux années 2020. Elle a été publiée, je pense, l'année dernière. Donc, c'est sur une période de 30 ans. Ce qu'on voit, c'est que les 3 dernières formes de maltraitance, c'est-à-dire la maltraitance physique, la maltraitance psychologique et l'agression sexuelle, diminuent. Ça a diminué à peu près par 2 pendant 30 ans. Mais par contre, ce qui reste stable, c'est la négligence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a 30 ans, les 4 formes de maltraitance étaient à peu près, se partageaient un petit peu... la une des maltraitances, c'est-à-dire on avait un petit peu dans des proportions égales les 4 formes de maltraitance, mais de nos jours, il y a beaucoup plus la négligence, ça concerne à peu près 30% des formes de maltraitance, et les autres formes sont même plus que 30-40% des maltraitances, et les autres formes de maltraitance se partagent les 60% restants, parce qu'elles ont été réduites de moitié. Mais malgré ça, enfin malgré le fait que la maltraitance elle-même a diminué, il y a d'autres formes qui sont en train d'émerger qui peuvent effectivement augmenter les risques de pathologies psychiatriques dans le futur, notamment tout ce qui est harcèlement chez les adolescents, enfin, qui n'est pas de la maltraitance de la part d'adultes, mais qui peut créer des séquelles importantes chez des enfants.
Alors, vous disiez aussi que c'est une chaire à dimension internationale. Est-ce que les critères de maltraitance que vous avez énoncés sont valables dans tous les pays du monde ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont considérées comme maltraitantes au regard, disons, de la loi française et qui ne le seraient pas dans d'autres pays ?
Oui, alors effectivement, il y a, une variabilité dans la notion de maltraitance. Par exemple, la violence physique, dans certains pays d'Afrique, ça peut être considéré comme un bienfait pour l'enfant dans la mentalité. C'est-à-dire, il voit ça comme apporter une éducation à l'enfant. Donc, apporter une éducation, c'est considéré comme un bienfait. Donc, évidemment, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a voulu créer cette chaire avec des sensibilités différentes. On a dans la chaire des personnes du Chili, on a des personnes de Côte d'Ivoire, des personnes du Bénin, on a des personnes du Moyen-Orient, on a des personnes d'Inde. Donc on a différentes sensibilités culturelles. Il faut dire quand même que globalement, l'idée est en train d'évoluer vers une moins grande tolérance envers toutes les formes de maltraitance dans tous les pays du monde. Il y a une diminution de ces formes de maltraitance et on va un petit peu vers une, je ne veux pas dire une homogénéisation de la notion, mais certaines maltraitances, en tout cas extrêmes, sont en train de diminuer. J'ai mis en ligne. Le 20 novembre, en fait, c'était la journée mondiale des droits des enfants. Et à cette occasion, il y a pas mal de communication sur la maltraitance infantile et les droits des enfants. Et cette année, le 20 novembre, j'ai mis en ligne deux vidéos, parce que sur notre site internet, on a des vidéos qui sont des vidéos qui prises auprès d'assistants sociaux au Burundi. Et ils donnent des exemples de maltraitance qui sont totalement, comment dirais-je, inimaginable en Occident, pratiquement des enfants battus avec des barres de fer, des choses qui, il y a aussi dans certains pays plus pauvres, les enfants qui travaillent parce que les familles ne sont pas en mesure de, comment dirais-je, n'ont pas suffisamment de revenus. Et que c'est une pratique qui existe. Donc effectivement, il y a certaines pratiques, mais qu'il faut effectivement essayer de diminuer autant que possible. Et une sensibilité, je pense, qui est en train d'augmenter dans ces pays-là. On, avec la chaire, justement, on essaie de mener des actions de sensibilisation aussi dans ces pays-là. Par exemple, là, j'ai un voyage de prévu aux Philippines en juin. Et puis l'année dernière, j'ai fait ce voyage au Burundi.
Voilà, il y a peut-être aussi des pays où il y a des enfants soldats. Donc là, comment on peut travailler dans un contexte comme celui-là, qui est vraiment particulier
Oui, ça, évidemment, il y a des phénomènes comme ça qui existent, notamment dans certaines régions de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que... c'est un phénomène que je connais un petit peu moins bien, mais je pense qu'un message qu'il faut... avoir vraiment toujours présent à l'esprit, c'est qu'on peut toujours faire quelque chose. C'est pas parce qu'un enfant a vu des horreurs qu'il a lui-même contribué peut-être à des horreurs puisqu'il a été forcé d'y contribuer. C'est pas pour autant que cette personne est condamnée à vie, à devenir violente ou à avoir des pathologies psychiatriques. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Comme je m'intéresse à cette question, par exemple, récemment, j'ai entendu le témoignage d'un enfant soldat qui maintenant, évidemment, est sorti de, comment dirais-je, du tunnel qu'il a traversé et qui va très bien. Donc, il y a toujours des choses à faire pour stimuler la résilience, accompagner les personnes, montrer sa proximité aux personnes. Il y a toujours de l'espoir. Voilà, il ne faut pas être dans l'idée que... voilà, que tout est fini, que tout est déjà joué. Non, il y a toujours possibilité d'avoir des interventions qui permettent d'accompagner quelqu'un sur le chemin de la résilience.
Voilà, donc au passage, je précise qu'il y a un très bon roman qui s'appelle « Alan n'est pas obligé » d'Amadou Kourouma, où il raconte justement son parcours d'enfant soldat. Donc lui, il en a fait un livre. Là, je glisse ça au passage parce que, comme les fêtes approchent, peut-être que nos auditeurs sont en quête d'ouvrages à offrir. Donc voilà, pourquoi pas celui-là qui justement raconte, en fait, c'est quoi être vu du dedans, c'est quoi être un enfant soldat. Et donc ce monsieur en a fait un livre. Je pense que c'est intéressant pour compléter ce que vous expliquez, Catherine Belzung. Et alors, dans toutes ces énergies, donc des travailleurs sociaux, des chercheurs, quelle place on peut laisser justement aux associations et aux anciennes victimes dans cette chaire UNESCO ?
Oui, alors nous essayons de collaborer activement avec les associations. Je vais vous en donner un exemple. L'un des travaux qu'on a menés avec la chaire, c'est justement de rédiger un document sur la prévention, c'est-à-dire c'est un document qui est à destination justement des travailleurs sociaux, des personnes de qui sont vraiment en contact direct avec des acteurs donc de la protection de l'enfance, qui sont en contact direct avec des victimes. Et donc, nous avons rédigé des lignes guides avec des personnes de la chaire de différentes régions du monde. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'étudier ce travail, cette proposition de lignes guides pour la prévention. Avec des acteurs de la société civile et des associations, mais dans différentes aires culturelles. Donc actuellement, notre document sur la prévention, il est étudié par des travailleurs sociaux en Inde, par d'autres en Italie et d'autres en France. Donc ça permet d'avoir à la fois... donc ça, c'est une, disons, ce regard... plus universitaire, mais aussi le regard de la société civile et aussi, ce regard interculturel.
Je vous propose de faire une première pause musicale, comme ça on va pouvoir reprendre notre souffle et boire tranquillement notre thé. Et on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour. Alors, je vous propose d'écouter une artiste qui s'appelle Gold. Et alors, attention, je vais user de mon franglais. Le titre, c'est « This shame should not be mine ». On se retrouve tout de suite après ça sur Radio Campus Tour.
Down in my pocket, I find a shame. Wildfire is spreading in me, no spark goes to waste. Who said? Into the shade, oh. Massive smoke rises, consumes me whole, killing me in silence. Shame.
de retour dans la Méridienne sur Radio Campus Tours. Nous écoutions Gold, attention, this shame should not be mine. Mon accent est épouvantable, mais la chanson est vraiment intéressante. Donc je vous invite à l'écouter de toutes vos oreilles. Et pour l'heure, je salue à nouveau mon invitée, Catherine Belzung, docteur en neurosciences. Vous êtes directeur de l'unité INSERM iBrain et nous parlons de la chaire UNESCO maltraitance infantile que vous coordonnez. Alors, puisqu'on est sur une radio, donc oui, nous sommes un vrai média. Quel est, à votre sens, le rôle des médias, justement, dans le rejet, disons, la banalisation ou l'acceptation des maltraitances envers les enfants ?
Ah bah, je pense que le rôle des médias est énorme. Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, quand la décision même que j'ai prise de m'aventurer à créer cette chaire venait du fait que dans les médias, pendant le confinement, on entendait parler beaucoup de maltraitance. Donc, je pense que les médias ont un énorme rôle en termes de sensibilisation du public. Ça permet de débanaliser d'une certaine manière, d'expliquer que la maltraitance est quelque chose de grave, qu'elle peut avoir des conséquences, outre le fait qu'elle ne soit évidemment pas acceptable moralement, il y a aussi le fait qu'elle entraîne des conséquences à très long terme pour les victimes qui vont pouvoir porter des séquelles à vie de cette maltraitance qu'elles ont subie. Donc je pense que vraiment les médias ont un rôle essentiel de sensibilisation, de mise en alerte du grand public. Et cette sensibilisation, cette mise en alerte peut aussi créer des mouvements d'opinion dans la société civile. Ces mouvements d'opinion sont ensuite précieux pour changer des dispositifs législatifs, par exemple, pour rendre certaines choses inacceptables. Et ça, on a vu l'impact du phénomène MeToo, par exemple. On a vu que ça peut permettre d'aboutir à des changements sociétaux très rapides. Donc, effectivement, non, les médias ont un rôle très important à jouer, je pense. Et même, je pense, non seulement très important, je devrais dire crucial. Parce que si le grand public n'est pas sensibilisé, si la société civile n'a pas envie d'agir, je pense qu'il est très difficile pour un individu isolé de faire quelque chose pour changer les choses. Enfin, il pourra faire des choses, mais ça restera une toute petite échelle.
Là, je pense à cette banalité qu'on entend parfois, on a les médias qu'on mérite. Voilà. Et je crois qu'il y a une prise de conscience, hein, en tout cas, peut-être pas chez tous, mais chez une partie des journalistes, sur même la façon de formuler les choses. De se dire, quand on parle de... Alors là, c'est plutôt des exemples sur les maltraitances ou alors les féminicides, et de dire, bah voilà, de ne pas raconter ça comme un fait divers un peu amusant, le côté sordide, drôle, quoi. Et je crois que ça commence à disparaître, ou de certains contenus, quoi. Cette façon de raconter les choses. Et il y a des associations de journalistes, d'ailleurs, qui travaillent là-dessus, hein. Je pense aux femmes journalistes qui ont fait l'association Prenons la Une. Et puis, il y a aussi l'association AJAR. Donc là, c'est les journalistes racisés qui, eux aussi, produisent des contenus sur la façon dont on parle de personnes qui ne sont pas forcément blanches, et comment on fait attention aux clichés qu'on peut employer dans les médias, parce qu'on véhicule des pensées.
Ah oui, je pense qu'effectivement, par non seulement le fait d'en parler déjà en soi pour sensibiliser, mais aussi la manière dont on parle de ces questions, je pense que c'est très important d'offrir des narrations qui soient sensibles, en fait. Je pense aussi que ça peut être très important de construire ces différentes narrations en intégrant le point de vue des victimes, parce que je pense qu'elles ont un regard unique sur cette question, et je pense que intégrer leur point de vue dans la manière d'en parler, ça pourrait être précieux.
Après, c'est peut-être la peur aussi qui retient. J'imagine que c'est plus facile d'écrire un papier où on tente d'être drôle que de donner vraiment la parole et d'accepter d'être face à, j'imagine.
Évidemment, ça suppose de rentrer dans la souffrance, de ne pas détourner son regard. Donc ça, effectivement, puis c'est pas forcément très populaire. En fait, on préfère des sujets plus gays que celui-là.
Cela étant, est-ce qu'il existe des, pour en revenir aux maltraitances infantiles, est-ce qu'il existe des facteurs de risque communs à toutes les aires géographiques ?
Aux maltraitances ? Oui. Alors en fait, parce que parce qu'il y a deux choses qu'il faut voir. Des facteurs de risque, oui, bien sûr. C'est-à-dire que la maltraitance est augmentée dans certains contextes. Alors, elle est augmentée par la pauvreté. Elle est augmentée par le fait d'être un groupe social qui est discriminé. Elle est augmentée par le fait que la personne a elle-même subi des maltraitances. Et ensuite, il y a certaines pathologies qui également cause directement la maltraitance, comme par exemple l'alcoolisme. Enfin, je veux dire, c'est donc effectivement, il y a des facteurs qui augmentent largement le risque de maltraitance et qui pourraient aussi être des facteurs qui sont, dans certains cas, identifiés dès le début. Par exemple, je pense aux parents qui ont parfois des personnes qui ont elles-mêmes subi de la maltraitance quand elles ont été enfants, développent des formes de parentalité dysfonctionnelle. Ben, ces personnes-là, on pourrait, je ne sais pas, les identifier pour pouvoir les accompagner, par exemple, et éviter qu'elles ne développent ce qu'elles ont elles-mêmes vécu. Mais il faut voir aussi que ce lien personne qui a subi la maltraitance, personne qui produit la maltraitance, n'est pas un lien, comment dirais-je, à 100%. Je pense que parmi les personnes qui maltraitent, à mon avis, je ne sais plus les chiffres exactement, mais ça doit être de l'ordre de 20 ou 30% qui ont eux-mêmes subi des maltraitances étant enfants. Donc la majorité d'entre eux n'en ont pas subi.
Est-ce que le fait d'être simplement, disons, une fille, ça peut aussi être un facteur, disons
ça peut effectivement, dans certains milieux, être un facteur, parce que ça dépend aussi de la représentation qu'on a de l'autre. Et si la représentation de l'autre est négative, ça peut effectivement augmenter ou amplifier la maltraitance.
Je demande ça parce qu'il me semble que parmi les victimes de maltraitance infantile, non pas qu'il n'y ait pas de garçons, mais il me semble qu'il y a plus de filles.
Oui, je pense qu'il y a un peu plus de filles. Après, je ne connais pas exactement les statistiques, mais effectivement, c'est assez possible qu'il y ait plus de filles.
On pourra toujours le rajouter dans le podcast de cette émission si on trouve ce chiffre précis. Alors après, je voulais aussi vous interroger, Catherine Belzung, j'en profite puisque vous êtes ici dans notre studio, sur, disons, les violences 2.0. Alors, qu'est-ce que l'émergence des réseaux sociaux fait au phénomène de maltraitance ? Est-ce que ça en crée des nouvelles ? Est-ce que ça en amplifie certaines ?
Oui, je pense que les réseaux sociaux ont été, ont beaucoup contribué à une forme de maltraitance qui est le harcèlement chez les adolescents, effectivement, puisque ce harcèlement peut être du cyberharcèlement. Et évidemment, en termes d'image de soi, en termes de réputation, tout ça peut avoir des conséquences dramatiques, surtout dans cette tranche d'âge, qui sont donc encore des enfants, puisque je vous rappelle que la définition d'un enfant, c'est tout être âgé de moins de 18 ans, donc c'est une définition qui est purement chronologique, donc ces harcèlements chez les adolescents sont une forme de maltraitance infantile, puisque ça concerne des personnes, ils aimeraient peut-être pas être appelés eux-mêmes des enfants, mais en fait, ils le sont quand même.
Et alors sur le volet, alors là, il y a peut-être des auditeurs qui vont grincer des dents, mais c'est de dire que le côté des parents qui, pensant bien faire, veulent exposer aussi leurs enfants. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une forme de maltraitance, ou en tout cas un risque d'exposer un enfant à des maltraitances ?
Il peut y avoir un risque, effectivement, notamment de détournement des images, enfin ce genre de risque qui peut exister, auquel je pense les personnes ne sont pas suffisamment sensibilisées. Et je pense qu'il faudrait également augmenter la sensibilisation à ces questions, effectivement, chez des parents qui mettent en ligne des photos de leurs enfants, des choses comme ça, qui pourraient être utilisées plus tard. Parce qu'aussi souvent, pour beaucoup de choses, on n'anticipe pas suffisamment. Et du coup, on ne se rend pas toujours compte des conséquences à moyen terme de nos actions. Donc effectivement, ça demanderait là aussi une sensibilisation.
Mais est-ce que comment dire, par exemple, la France peut légiférer sur le fait que les photos d'enfants soient carrément supprimées en fait des réseaux sociaux? Avec un algorithme, on peut carrément les éjecter?
Je pense que là, ça dépend. Enfin, parce que je pense que la modération sur les réseaux sociaux, elle dépend des réseaux eux-mêmes et de leur politique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est effectivement ne pas soutenir les réseaux qui ont une politique de modération des contenus assez faible.
En effet, c'est une question complexe parce que là, on se heurte aussi peut-être à la, disons, que les gens vont y voir une restriction de leur liberté, de se dire en vertu de quoi je ne montrerai pas mes enfants qui, admettons, les gens sont fiers aussi, ils ne les montrent pas pour leur nuire. Et du coup, de faire comprendre ça à des parents, ça peut être difficile.
Oui, ça peut effectivement être très difficile. Donc tout ça, ça montre bien qu'il faut vulgariser, sensibiliser. Et je pense que nous, les chercheurs, on est souvent un peu trop dans notre tour d'ivoire pour ne contribuer pas assez à augmenter la conscience du grand public à ces questions.
Alors là, vous me tendez une perche rêvée pour revenir à la pluridisciplinarité, donc qui est un des fondements de cette chaire UNESCO. J'aimerais savoir quel rôle peuvent jouer d'autres professionnels dans cette chaire, dans ces travaux de recherche, d'accompagnement. Je pense par exemple à des radiologues, à la PMI, donc la protection maternelle et infantile, à des infirmiers scolaires. Comment ils pourraient s'impliquer dans les travaux de la chaire et qu'est-ce qu'ils pourraient repérer comme signe de maltraitance?
Oui, alors nous avons plusieurs. Effectivement, la chaire est interdisciplinaire et ça peut être à deux niveaux. D'abord, sur le plan des disciplines académiques qui sont impliquées, puisque on a vraiment des personnes extrêmement diverses, philosophes, sociologues, psychologues, neurobiologistes, juristes, experts en radiologie, parce que par exemple des radiologues, ce sont ceux qui vont permettre de distinguer des fractures qui sont le résultat d'une chute dans l'escalier, des fractures qui sont le résultat de coups. Enfin, donc chacun contribue avec sa part de savoir, et c'est ensemble qu'on peut former une mosaïque. Et puis aussi, donc nos travaux sont véritablement interdisciplinaires. Par exemple, le document dont je parlais tout à l'heure qu'on a fait sur la prévention, c'est un document qui a impliqué dans sa rédaction des psychologues, des juristes, neurobiologistes, philosophes. Donc, effectivement, chacun a sa sensibilité et va être attentif à un aspect du document auquel l'autre n'est pas forcément sensible. Donc, je pense qu'en travaillant ensemble d'une manière véritablement interdisciplinaire, c'est-à-dire ensemble de différentes disciplines, c'est-à-dire pas que chaque discipline reste dans son coin, mais qu'on travaille ensemble, effectivement, on va améliorer, par exemple, dans l'exemple que je donne de ce document sur la prévention, on va améliorer la qualité de ce document, puisqu'il portera en lui-même des points de vue différents. Et ensuite, puisque vous mentionniez aussi la collaboration avec des travailleurs sociaux, avec des infirmiers, effectivement, c'est effectivement des acteurs de la protection de l'enfance, c'est effectivement quelque chose qu'on implémente dans un second temps, en discutant de ce document qui est déjà interdisciplinaire et interculturel avec des acteurs de terrain, parce qu'effectivement, des universitaires, on n'est pas en contact avec la vraie vie souvent. Enfin, on est un petit peu sur notre petit nuage dans nos bureaux et nos laboratoires. Et du coup, c'est très important de se confronter avec des acteurs de terrain qui ont une autre forme de savoir, puisque c'est le savoir qui vient directement du contact avec les victimes, avec aussi les auteurs de maltraitance. Et leur regard va nous permettre de... Donc petit à petit, en interagissant entre des universitaires de différentes disciplines et puis des acteurs de la société civile qui ont véritablement une compétence pratique, on va arriver ensemble à produire des documents de qualité, je dirais.
Alors vous l'avez dit aussi, Catherine Belzung, donc il y a plusieurs axes pour traiter de la maltraitance infantile. Donc vous avez évoqué disons l'éducation à la parentalité. Donc ça, c'est peut-être plutôt sur le volet de la prévention. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi la formation des soignants, mais vous l'avez aussi dit tout à l'heure, former les soignants pour repérer, écouter et transmettre aussi de bonnes informations. Peut-être que ça peut être... Alors ça, c'est peut-être un sujet aussi qui pique un peu, mais de dire un accès à la contraception. De dire des fois, il y a peut-être des cas de maltraitance qui existent parce qu'il y a des difficultés à la base sur l'idée d'avoir des enfants.
Oui, 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 il y a effectivement différents leviers sur lesquels on peut agir. Alors nous, dans la chaire, on s'oriente autour principalement de quatre leviers qui sont premièrement la prévention, c'est-à-dire ça, c'est évidemment faire en sorte que la maltraitance n'existe pas. Ça, c'est bien sûr le plus grand levier, améliorer les conditions de vie, l'information. Ensuite, un deuxième levier, c'est la prévention secondaire, c'est-à-dire quand un enfant est maltraité, l'accompagner de sorte à ce qu'il ne développe pas de pathologie. Donc là, c'est des interventions qui surviennent quand un enfant a déjà été maltraité, mais il est possible de l'accompagner, surtout à l'adolescence, pour éviter qu'il ne prenne une trajectoire qui aille vers des psychopathologies. Et ensuite, il y a un troisième levier, c'est carrément les thérapies. Ça, c'est si une personne est arrivée à l'âge adulte, qu'elle n'a pas pu bénéficier d'interventions pendant son adolescence. Là encore, il y a des thérapies qui peuvent fonctionner. Et puis enfin, un quatrième levier, c'est un levier beaucoup moins populaire, mais je tiens beaucoup à ce levier. C'est l'accompagnement des auteurs de maltraitance. Parce que la plupart des auteurs, je pense que 90% des auteurs de maltraitance ne sont pas accompagnés. Or, si on veut diminuer la maltraitance, une excellente manière, c'est de faire en sorte que les auteurs de ces maltraitances ne fassent plus de maltraitance. Et donc, pour ça, l'accompagnement des auteurs me semble être un levier à ne pas négliger.
Ça peut être une structure comme le CRIAPS à Tours ?
Je connais pas le
CRIAPS. C'est le centre de ressources pour les auteurs de violences sexuelles. Et je pense qu'il y a le professeur Robert Courtois qui travaille dedans, qui fait partie du laboratoire Calypsie.
D'accord, ça peut être effectivement une façon. Donc là, dans l'exemple que vous donnez, c'est sur les maltraitances sexuelles. Voilà, je pense qu'il peut y avoir d'autres, ça peut aussi être prendre en charge ces personnes qui, dans certains cas, donc effectivement, il n'y a pas un seul profil d'auteur, il y a toute une typologie. Dans notre chaire, on a un collègue belge justement qui est spécialisé là-dedans, dans établir des typologies pour essayer de... Parce que selon ce qui cause de la dysfonction chez ces personnes, il faut avoir des interventions ciblées. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un est un agresseur sexuel parce qu'il est alcoolique, c'est évident qu'il faut traiter son alcoolisme en premier. Enfin, d'autres, ça peut être parce qu'ils ont des psychopathologies, il faut accompagner, il faut traiter ces psychopathologies. Dans d'autres cas encore, ça peut être des personnes particulièrement narcissiques. Et dans ce cas, l'accompagnement consiste à éduquer ces personnes au fait qu'autrui a des droits. Ça peut avoir l'air assez basique parce que la plupart des gens savent que les autres ont des droits. Mais des personnes avec un profil de pervers narcissique n'ont pas forcément intégré cette dimension. Donc voilà, donc c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est des interventions ciblées selon le type d'agresseur.
Et alors quelque chose comme la justice restaurative, ça peut être proposé à ce qu'on appelle un pervers narcissique ou au contraire il va se délecter de ce que vont dire les victimes ?
Alors ça, effectivement, c'est, je pense que la justice restaurative, de manière générale, ça peut être très, très positif. Et souvent, ce qui peut se faire, ça peut se faire de manière croisée. C'est-à-dire que l'agresseur, évidemment, ne va pas être confronté aux victimes de ses propres actions, mais à des victimes de l'action d'un agresseur du même type que lui. Enfin, de sorte à ce qu'il ne se trouve pas effectivement dans cette situation de se délecter des conséquences terribles de ses propres actions. Enfin, après, vous me posez une colle, je ne sais pas s'il y a déjà eu des études avec des pervers narcissiques avec ce type de dispositif.
Ah bah, j'espère que non. Sûr que le fait que ça n'arrive pas, enfin, c'est plus dans ce sens-là que je le dis. Et alors vous expliquiez aussi qu'il est possible de, disons, réparer les victimes, donc peut-être par le biais de la justice restaurative. Et il y a aussi une prise en charge qui a le vent en poupe sur les réseaux sociaux, c'est le MDR. Alors de quoi il s'agit ? Parce que je pense qu'il y a du vrai et du faux.
Oui, alors le MDR, c'est effectivement une méthode, donc c'est basé sur le mouvement des yeux. Et c'est une méthode qui fonctionne très bien dans les cas de stress post-traumatique. Donc, la méthode s'est avérée efficace. Le problème, c'est qu'on, et ça, c'est une chose qu'on n'aime pas, c'est qu'on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Et ben, nous, les scientifiques, on aime bien décortiquer le mécanisme. Et donc, quand on voit un truc qui marche et qu'on ne sait pas comment ça se fait que ça marche, on n'aime pas trop ça, mais je pense que l'essentiel, c'est que ça marche. Donc effectivement, c'est une thérapie qui a pas mal le vent en poupe et qui est efficace. Enfin, l'efficacité a été démontrée.
Il y a quand même ce côté, disons, un peu magique qui est embêtant d'un point de vue scientifique.
Oui, effectivement, on est un peu, comment dirais-je, réservé parce qu'on n'a pas compris le mécanisme. Mais je pense que l'honnêteté nous demande quand même d'accepter que ça marche.
Bien, je vous propose de faire une pause musicale courte et après je me ferai un plaisir de vous poser des questions sur les conséquences physiologiques et sur le cerveau de ces traumatismes, parce que quand même, voilà, je redis qu'on a de la chance d'avoir ce partenariat INSERM qui nous permet d'avoir régulièrement des chercheuses et chercheurs dans cette émission, et notamment des chercheurs iBrain. Voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir des cervologues dans cette émission. Alors je mets une petite pause musicale, c'est Black Flower, on va écouter Bones. À tout de suite sur Radio Campus Tours. très belle pause musicale sur Radio Campus Tour, Black Flower, c'est Bones. Alors, voilà, quelques questions ultimes à notre invitée Catherine Belzung, donc docteur en neurosciences, directeur de l'unité iBrain INSERM, et vous coordonnez également la chaire UNESCO en maltraitance infantile. Alors, voilà, je vais déborder un petit peu, hein, mais promis, je ne vous kidnappe pas. Je voudrais quand même poser quelques questions sur les... disons sur les conséquences sur le cerveau, les conséquences physiologiques qu'on peut voir, qu'on peut démontrer lorsque, disons, un vivant est exposé à une maltraitance.
Oui, oui, effectivement, disons le cerveau est un organe qui se développe pendant l'enfance et l'adolescence. Donc les maltraitances infantiles ont la particularité, contrairement à des violences qui arrivent chez un adulte, ont la particularité de toucher un cerveau en plein développement. Et donc, ce qu'on sait, c'est que ces maltraitances vont impacter, vont créer des altérations cérébrales, surtout dans certaines régions cérébrales qui sont les régions du traitement des émotions, du traitement du stress. Donc ça, c'est la première chose. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ces altérations cérébrales vont persister jusqu'à l'âge adulte. Elles sont présentes pendant l'enfance, mais si on regarde cet enfant qui est devenu adulte, on va voir que ces altérations vont persister jusqu'à l'âge adulte. Elles concernent le volume de certaines régions cérébrales, elles concernent certaines cellules de ces régions cérébrales, elles concernent certaines molécules de ces régions cérébrales. Il faudrait une émission entière pour entrer dans les détails.
Je note.
Mais... Mais voilà, le point, c'est que ces altérations persistent jusqu'à l'âge adulte, voire jusqu'à la vieillesse. Donc, c'est pour ça qu'elles ont un poids sur toute la vie du sujet.
Et alors, comment se fait-il que les traumatismes se transmettent de génération en génération ? C'est-à-dire que ces personnes qui ont un cerveau modifié, elles vont transmettre un traumatisme, elles vont transmettre quoi et comment ?
Oui, alors ça c'est un sujet en soi. Effectivement, il a été montré que le traumatisme se transmet jusqu'à 6 générations. Alors, comment a-t-on découvert ça ? Alors, le début de l'histoire se situe en fait avec un chercheur qui étudiait des descendants de personnes qui avaient vécu la Shoah. Et il a vu que les descendants avaient presque plus de séquelles que la génération qui avait subi ce traumatisme. Donc du coup, on peut se demander si on trouve aussi cette transmission intergénérationnelle, cette fois-ci, pour le traumatisme infantile, puisque le traumatisme dont je vous parlais tout à l'heure avait eu lieu chez des personnes adultes qui avaient transmis à leur descendance. Mais est-ce que quand on a subi une trauma pendant l'enfance, ça peut aussi se transmettre sur la descendance ? Il y a des études qui ont montré que oui. Et ceci concerne à la fois des personnes qui ont été maltraitées pendant leur enfance, qui vont transmettre certaines séquelles à la génération suivante. Ça peut aussi survenir chez des personnes qui sont exposées à des traumatismes pendant que leur maman est gestante, qui vont donc transmettre ce traumatisme quand eux seront adultes. Ça a été étudié par exemple au Rwanda, où des femmes étaient enceintes pendant le génocide au Rwanda en 1994. Et il a été trouvé que les enfants qu'elles portaient avaient des séquelles jusqu'à l'âge adulte, puisque maintenant ces enfants, comme ils ont 25 ans, enfin, donc voilà. Alors, ce qui a été montré, c'est qu'il y a deux aspects notamment qui se transmettent à la génération suivante. C'est les aspects, bien sûr, psychologiques. Donc, les personnes qui ont été maltraitées, par exemple, vont avoir un taux plus élevé de dépression. Eh ben, on trouve ce taux plus élevé de dépression dans la génération d'après. Et l'autre aspect qui est transmis, ce sont les séquelles biologiques. Par exemple, les personnes qui ont subi des maltraitances ont des altérations des hormones du stress et, comme je viens de le dire, des altérations du volume de certaines régions cérébrales. Ces altérations se trouvent aussi dans la génération d'après. Alors, à l'échelle de l'humain, il est difficile de mener des études disons, pour faire une étude intergénérationnelle, il faut 25 ans. Donc, c'est extrêmement long pour faire des études scientifiques. C'est pour ça qu'on peut utiliser aussi des souris de laboratoire, parce que les souris de laboratoire, elles font une génération en 3 mois de temps. Donc, avec la souris, on peut étudier des séquelles sur plusieurs générations. Et ça a été fait chez la souris sur 5-6 générations. Et là, il a été observé, effectivement, que la maltraitance infantile, qui existe aussi chez les animaux, spontanément, pouvait se transmettre spontanément à la génération d'après, notamment des marques qu'on appelle des marques épigénétiques. Et ces altérations épigénétiques se retrouvent jusqu'à la 5e génération. Donc, ainsi que les altérations du comportement. Par exemple, les souris qui ont été maltraitées durant l'enfance sont, quand elles sont adultes, plus anxieuses et plus stressées. Et cette caractéristique se retrouve au moins jusqu'à la 4e, 5e génération.
Ça me fait penser à les expressions populaires quand on dit « je vous maudis sur tant de générations ». En fait, c'est pas si faux que ça, finalement.
C'est pas si faux que ça, effectivement.
Pardon, je m'égare. Et est-ce qu'il y a des marqueurs biologiques, en fait, sur des personnes qui souffriraient, en fait, physiquement de maltraitance, enfin, disons qu'il y a ce cerveau donc modifié, est-ce que ça induit des marqueurs biologiques? Est-ce qu'on peut détecter une maltraitance dans le sang ou dans les tissus?
Alors il y a effectivement des marqueurs sanguins, mais ces marqueurs sanguins sont non spécifiques, c'est-à-dire on va les trouver on va les trouver aussi si on est stressé à l'âge adulte. Enfin, on va les trouver. Ce sont des marqueurs du stress en général. Mmh. Ils ne sont pas spécifiques de la maltraitance durant l'enfance.
Donc, ça veut dire que, par exemple, parce que le plus cité dans les médias et qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, où on nous invite à faire des régimes sans, c'est le cortisol. Donc, ça, par exemple, ce n'est pas forcément lié à une maltraitance infantile.
Voilà, le cortisol, on le trouve altéré dans différentes pathologies, le stress post-traumatique, la dépression, la maltraitance infantile. Donc effectivement, c'est un marqueur, mais il n'est pas spécifique.
Bien, voilà, j'ai déjà débordé un peu de mon émission, donc je vais m'arrêter là. Mais je note, Catherine Belzung, l'idée d'une émission sur les altérations cérébrales, c'est une très bonne idée. Je vous remercie beaucoup d'être venue jusqu'à notre modeste radio et je mettrai avec plaisir en lien du podcast de cette émission tous les liens que je pourrais avoir pour que nos auditeurs puissent aller lire des choses peut-être sur ces expériences conduites avec les souris et évidemment vers la chaire UNESCO pour qu'ils puissent regarder les vidéos et peut-être les documents dont vous avez parlé également.
Merci beaucoup pour vos questions, toujours très stimulantes.
Merci. Et on va justement écouter Simone, merci, pour terminer cette émission en musique. Auditeurs, vous la réécouterez aujourd'hui même à 17h et à volonté sur notre site radiocampustour.com et sur toutes les bonnes plateformes.